Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Fergan Azihari.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes délégué général de l'Académie libre des sciences humaines et vous avez publié Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée aux éditions Les Presses de la Cité. Olivier Babeau, bonjour.
Bonjour.
Président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux, vous avez publié La tyrannie du divertissement, ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie chez Bûcher Chastel. On pouvait vous lire le 12 avril dans les colonnes du Figaro justement sur la question de l'emploi à vie dans la fonction publique. Dany Lang, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes enseignant-chercheur en économie à Sorbonne Paris Nord, membre du Manifeste pour l'Industrie. Est-ce que vous ressentez la même émotion que moi en apprenant que dans cette course aux milliards d'économies totalement effrénées et un peu aveugles qui s'est ouverte à Bercy, eh bien on décide d'aller taper dans les aides à l'apprentissage, enfin un dispositif qui fonctionnait alors que pendant des années on se désespérait de voir l'apprentissage patiner, enfin un investissement efficace dans la formation des jeunes et pas forcément les jeunes les plus qualifiés, et voilà qu'on décide par décret, on a annoncé hier cela au syndicat, eh bien de tailler dans une partie des aides accordées aux entreprises dans le cadre de la formation professionnelle. Vous êtes ému, Daniel Lang,
allez-y. Moi je veux bien commencer.
Allez-y, parce que moi j'ai trouvé ça pas à sa place. On ne tue pas le dispositif, mais on l'affaiblit avant peut-être d'autres décisions.
Je suis d'accord avec vous, Nicolas, mais j'aimerais replacer ça dans le cadre plus général. Là, on est de nouveau en train de faire de l'austérité dans une période où, franchement, c'est pas de l'austérité aussi drastique que ce qui a été fait dans les pays du Sud en 2010-2011, mais on est de nouveau en train de baisser la dépense publique au mauvais moment, et notamment, on baisse tout ce qui est dans la formation, on baisse aussi les budgets qui vont aux laboratoires de recherche et aux universités qui sont déjà exsangues, et maintenant on tape sur la formation. Je pense que dans les 160 milliards annuels qui vont aux entreprises, il y avait certainement d'autres sources d'économies que celle-là. Clairement, c'était un dispositif qui marche. Ça fait des années qu'on se plaint en France que l'apprentissage ne fonctionne pas suffisamment bien. Pour une fois, c'est un dispositif qui, d'après moi, allait dans le bon sens. Ben, on coupe dedans. Bon, voilà.
Prêt.
On coupe dedans, bêtement, inutilement. Je ne dis pas que tous les 160 milliards annuels qui vont aux entreprises sont illégitimes, mais il y avait certainement d'autres dispositifs beaucoup plus coûteux et beaucoup moins efficaces à remettre en cause. Bon. J'aimerais rappeler quand même que le CICE, à l'époque, c'était 260 000 euros par an et par emploi, ce qui était extrêmement cher.
On peut rappeler que sur le montant que vous citez de ce qu'on appelle les aides aux entreprises, il y a à peu près pas loin de 100 milliards d'allègements de cotisations sociales.
Oui, ben voilà,
c'est le modèle social.
Je ne suis pas pour les allègements de cotisations sociales.
La dépense publique ne peut pas être comparée aux allègements de cotisations. C'est-à-dire, en ce cas-là, effectivement, tout impôt qui n'est pas levé est un manque à gagner pour l'État, si on raisonne ainsi. Donc, mais c'est vrai que, bon, pour revenir à ce que vous disiez, Nicolas, oui, on a l'impression effectivement que on a un gouvernement qui peine à situer les priorités en matière de génération. C'est-à-dire que l'apprentissage, en effet, ça fait des années qu'on nous dit qu'on est en retard sur cette question. Le chômage, il faut le rappeler, a longtemps concerné les personnes les moins qualifiées en France.
Pour c'est toujours le cas. 80% des chômeurs n'ont pas le bac ou le niveau bac.
Exactement, vous avez parfaitement raison. Les non-qualifiés sont surreprésentés parmi les chômeurs pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, quand vous avez un droit du travail qui est assez restrictif, ça tue l'employabilité des moins qualifiés. Donc l'apprentissage était un moyen, il faut le dire aussi, de déroger à pas mal de minima sociaux. C'est l'avantage du contrat de professionnalisation qui permet d'embaucher des gens en dessous d'un certain niveau de SMIC. Je n'ai plus le pourcentage en tête, mais en tout cas, ça permet de déroger aux minima sociaux. Et donc c'est vrai que taper sur ce dispositif-là, c'est vraiment le signal qu'on envoie, un signal comme quoi l'avenir, en fait, on se fiche complètement de la jeunesse, alors même qu'il y a des dépenses, des leviers beaucoup plus efficaces à envisager. Je rappelle simplement que l'indexation des retraites en début d'année...
Je ne l'ai pas dit en introduction, je me suis dit je vais vous laisser la
première. Mais oui, mais c'est parce que...
Vous pourrez réagir si vous voulez aussi sur l'indexation des retraites.
Voilà, oui, donc on a
14,5 milliards cette année, après 5,3% d'indexation des pensions sur l'inflation décidée pour 2024.
On donne 14 milliards aux catégories les plus riches du pays, il faut le rappeler, pour ensuite faire les fonds de tiroir auprès des catégories les plus précaires. Quel message ça envoie pour un gouvernement qui se veut le gouvernement de la jeunesse et qui, en réalité, est un gouvernement gouvernement au service d'une certaine gérontocratie. Et le problème, c'est que ce n'est pas seulement une préoccupation qui est franco-française, c'est un problème auquel sont confrontés tous les pays européens aujourd'hui. Il faut rappeler qu'en France, 60% de l'augmentation de la dépense publique ces 6 dernières décennies est imputable aux seules retraites. Ce sont les retraites qui expliquent principalement notre différentiel de dépenses publiques entre la France et les autres pays de l'OCDE.
Les retraités, je valide, c'est vrai.
Les retraités forment aujourd'hui en France les catégories les plus riches du pays, ce qui n'est pas en soi une anomalie, puisqu'il est parfaitement normal que celui qui a épargné pendant 40 ans ait plus de patrimoine que le nourrisson qui vient de naître. En revanche, effectivement, on a un problème d'inéquité intergénérationnelle en raison du fait qu'on a fait le choix d'un système par répartition, qui est un régime, un jeu à somme nulle, alors même que si nous avions fait le choix d'un système de retraite fondé davantage sur l'épargne et la capitalisation, on aurait pu avoir un jeu à somme positive entre les générations d'hier et celles d'aujourd'hui. Et c'est bien sur ce système-là qu'il faut se pencher si nous prenons la question des finances publiques au sérieux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est aucune force politique, évidemment, n'ose aborder cette question parce que personne ne veut affronter cet électorat qui est surreprésenté parmi les votes.
Donc c'est la politique qui l'en... On va laisser Olivier Babeau réagir. On reparlera de cette histoire de capitalisation. Peut-être que les mots doivent être réinventés, mais l'histoire est de moins en moins taboue. Olivier, oui. Par rapport à ce qui a été dit, je sens que Dany Lang boue après avoir écouté Fergan, mais on va...
Complètement.
Moi, voilà. Et un conflit d'intérêt, il est proche de la retraite.
Je m'en réjouis que le débat...
Non, il n'est pas proche de la retraite. Je remarque une chose...
Par rapport à moi, je veux dire...
Non, mais d'ailleurs, Fergan, je veux bien... Ce débat, on l'a très souvent sur est-ce qu'il n'y a pas un mauvais arbitrage intergénérationnel. La plupart de ceux qui argumentent, comme vous argumentez aujourd'hui, sont des gens qui, globalement, sont assez loin des 50 ans. Plutôt.
Non mais pardon, voilà. On a quand même des arguments
que connaît bien Olivier Babeau.
On a quand même des données, mais Olivier va aussi les préciser, le taux de récupération, le taux de remplacement, enfin tout ça, il y a quand même des vraies questions qui se posent objectivement.
Mais on a un choix, il y a un choix français d'avoir des retraités qui sont bien traités.
Je note que avec plaisir que le débat a escaladé rapidement parce qu'on a eu gérontocratie au bout de moins de 30 secondes, donc c'est formidable. Et puis la retraite par capitalisation, je suis d'accord, il faut la rebrander, il faut une nouvelle étiquette. Moi je propose épargne longue, c'est quelque chose qui est beaucoup plus agréable pour les gens.
Prévoyance,
voilà. Épargne longue, prévoyance, voilà, on pourrait
prévoyance, un mot super un peu, bien un peu
et d'ailleurs entre parenthèses
c'est vachement important le choix des mots, hein.
Les riches ils font de la capitalisation depuis très longtemps,
oui, et
le débat c'est pas faut-il la capitalisation, c'est faut-il donner accès à la capitalisation aux gens les plus modestes, c'est tout la vraie question. Et là encore
le débat aussi, Olivier, c'est faut-il que la cotisation par capitalisation soit une obligation mensuelle ? Et là, on a un petit sujet de transition entre le moment du départ et le moment où ça tourne à plein régime.
Puis le taux de cotisation global aujourd'hui à cause de la répartition. Mais alors, attends, on parlait pas de ça au départ. Alors,
oui, on parlait pas de ça. On parlait de la prime des 6 000 euros pour les... Prime.
Alors là, effectivement, je plus sois à tout ce qui a été dit jusque-là, c'est qu'on a quand même l'impression qu'il y a une forme de gestion un peu comptable, une gestion un peu malencontreuse, puisqu'on ne coupe pas là où il faudrait couper les dépenses, on coupe là où on peut les couper.
Oui.
On peut dire, on coupe pas là où ça fait moins mal, on coupe là où ça crie le moins. C'est-à-dire que là où électoralement, c'est moins compliqué, ce qui quand même pose un problème. Alors oui, il y a des effets d'aubaine dans ce dispositif, mais enfin, c'est quand même très paradoxal. Quand le dispositif ne marche pas, ça veut dire qu'il foire. Ah bah, il coûte pas très cher, on va pouvoir le garder. Quand le dispositif fonctionne, ça veut donc dire que il remplit une fonction. Ah bah non, bah ça coûte trop cher, on va l'enlever. Bah, c'est quoi cette politique de gribouille ? Et malheureusement, ça traduit ce qu'on est nombreux à dire, c'est qu'aujourd'hui, l'impasse budgétaire est telle qu'en fait, toutes les politiques, toutes les décisions vont se lire à l'aune de la nécessité de gratter des milliards. Voilà. Bercy est en permanence sur sa tour de contrôle à essayer de voir où est-ce qu'il va pouvoir trouver. On va raboter. Et malheureusement, quand on rabote, c'est pas toujours aussi intelligent, aussi utile, aussi efficace à long terme qu'on le voudrait. En termes intergénérationnels, oui, c'est redoutable. Les arbitrages qui sont faits sont redoutables quand vous regardez d'un côté le pouvoir d'achat des retraités, que j'adore hein, par ailleurs. Et moi, effectivement, j'en suis beaucoup plus près que Fergan, même si je suis plutôt en milieu de carrière. J'ai bien calculé.
Moi, je suis encore relativement loin, même si j'ai dépassé le milieu de carrière.
J'ai fait mon calcul, c'est 68 ans, 70, hein, moi. Parce que forcément, quand tu es universitaire, tu commences à travailler très tard.
Hein, ouais, donc, à réforme constante.
C'est violent.
À réforme constante.
Oui, encore.
Attends un petit peu.
Mais je pense quand même qu'effectivement, l'emploi des jeunes, c'est quelque chose sur lequel on ne devrait pas transiger. Alors peut-être qu'il faut voir le dispositif le plus efficace, mais c'est pas un très bon signal.
J'ai pas le souvenir, je vais faire réagir Dany sur tout ce qu'on a pu dire. Ça fait quand même longtemps que je suis l'actualité économique, j'approche les trois décennies, on observe à ce poste de vigie la trajectoire budgétaire annuelle tous les ans. J'ai rarement vu un gouvernement nous sortir 20 milliards d'euros complètement mort de faim à peine le mois d'avril arrivé. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une année budgétaire où on s'est retrouvé pris à la gorge à ce niveau-là.
Donc je suis trop jeune, moi.
Et j'ai du mal à penser que ce soit simplement le verdict des agences de notation du 26 avril qui soit l'unique moteur.
Non.
Bon,
non.
Alors, justement, sur tout ce qu'on a dit, là, parce que.
Sur tout ce qu'on a dit.
On a que des chiffons rouges partout, là.
Oui, là, pour moi.
Et puis j'ai l'emploi à vie qui nous attend.
On est d'accord sur le fait qu'il fallait pas toucher à ce dispositif. C'est déjà ça. Après, on a des accords. La nécessité de couper. Je suis désolé, quand ma voiture n'avance pas assez vite, j'appuie pas sur le frein pour la faire repartir. Ça n'a pas de sens dans le contexte actuel. Les coupes dans les dépenses publiques ne sont pas nécessaires. Elles sont contre-productives. Soyons clairs. Bon, ensuite, sur la retraite par capitalisation.
Attends, on va au bout de l'idée dans ces cas-là, Denis Long. Elles sont contre-productives. Ça veut dire que, pas à côté de ça, vous oubliez toute trajectoire et tout engagement que vous avez pu prendre vis-à-vis de vos partenaires.
Attendez.
Quand vous constatez que vous avez des dérives de déficit qui dépassent les 0,5 sur un an,
le moment de réduire les dépenses publiques, en France, de toute façon.
Non, mais jamais. Plus on réduit les dépenses publiques, plus le déficit va dériver. On l'a vu dans les années 2010, souvenez-vous, Nicolas, ces gouvernements qui ont coupé, ils se sont retrouvés avec des déficits et des dettes beaucoup plus importantes que prévu. Donc, parce qu'à la fin, ça a des effets sur l'économie réelle. Donc, ça a des effets sur l'économie réelle. Donc, et en plus, on coupe dans des. Il n'y a pas que l'apprentissage. Il y a les universités, il y a les hôpitaux, dans des secteurs dans lesquels il ne fallait vraiment pas couper. C'était la dernière chose.
Que les 904
et la
millions
culture
sur
aussi. La ministre de la Culture a une réaction admirable. Je ne suis pas un grand fan d'elle.
Allez-y.
Mais quand on a coupé dans son budget,
oui, j'ai vu ça.
Elle a été très mécontente et elle a parfaitement raison. C'est un secteur où le multiplicateur de la dépense publique est le plus important. Donc, 1 euro enlevé de dépenses publiques dans la culture, ça peut être jusqu'à 25 euros enlevé dans l'économie. Ça, il faut faire très attention. Bon, indépendamment de ça, Gann plaide pour la retraite par capitalisation. On est en désaccord complet. Moi, je reprendrai le
titre. C'est un vrai contradicteur.
Un ouvrage de Frédéric Lordon qui est fonds de pension piège à con. Parce que c'est vraiment.
Ah, bon, moi, ça a le mérite d'être.
Ce qui veut.
Oui, on a marre de cette imposture, honnêtement.
Bon, mais
vous allez réagir,
Je vous ai laissé parler.
Allez-y, Denis.
Moi, je ne vous ai pas interrompu. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi finir.
Pardon.
Donc, sur ces histoires de. Maintenant, en fait, leur idée, c'est de taper. D'opposer les générations. Alors qu'au sein des générations, il y a de très fortes disparités. Et notamment, les retraités français, d'accord, dans l'ensemble, ne sont pas maltraités. Mais il ne faut pas oublier que le patrimoine que possèdent les gens, pour la plupart d'entre eux, il n'est pas acquis pendant leur vie. C'est quelque chose dont ils héritent, pour l'essentiel. Et notamment, il y a de fortes disparités au sein des retraités et au sein de la même génération. Moi, je ne suis pas favorable pour qu'on tape sur les retraités. Je suis pour qu'on ait des politiques.
On a tapé les patrimoines.
Donc les retraités.
Moi, non, mais au niveau. Non. Qu'on ne tape pas sur les retraités, mais au moment de l'héritage, qu'on ait un impôt qui soit beaucoup plus progressif et notamment qu'on revoie le barème de l'IFI qui très franchement est ridicule
l'impôt sur la fortune immobilière
et il est complètement ridicule et il favorise l'absence de mobilité sociale. Si on veut donner une perspective aux jeunes, il faut aussi qu'on leur donne la perspective de pouvoir un jour accéder à quelque chose. Je suis désolé, mais aujourd'hui, vous pouvez travailler très dur toute votre vie, y compris quand vous êtes cadre. Vous n'accédez plus à un patrimoine. Donc ça me paraît un problème infiniment plus urgent que d'accord. De jouer nos retraites
au loto. Mais c'est lié, en fait.
Les retraites... Monsieur, je ne vous ai pas interrompu.
Allez-y.
Je vous demande une fois de plus de cesser de m'interrompre. Donc, sur les retraites, les fonds de pension, c'est jouer la retraite au loto. Il faut être très clair.
Je voudrais juste réagir parce que moi, ce discours, j'en ai vraiment marre quand j'entends de quelqu'un de la gauche radicale, parce que vous appartenez à ce camp-là.
Je ne suis pas de la gauche radicale.
Si.
Non,
ça fait 150 ans que les socialistes.
Facile.
Ça fait 150 ans.
Je ne laisserai pas dire ça.
Ça fait. Vous êtes les économistes atterrés, c'est pas vraiment un
économiste ultra-libéral. Sommeil aujourd'hui, donc on va.
Non,
ça fait 150 ans.
Désolé, je n'assume pas.
Vous avez cité Frédéric Lordon.
Oui, j'ai cité Frédéric Lordon. Oui, comme j'ai cité.
Ça fait 150 ans. Alors, ça fait 150 ans qu'on nous explique à gauche que les actionnaires se gavent, que le rendement du capital est outrancier. Et quand on nous dit qu'il faut ouvrir le statut d'actionnaire à tout le monde, on nous dit c'est trop risqué. Il y a un moment où il faut choisir son discours. Ou bien vous considérez en France que les dividendes sont trop généreux et donc vous devriez vous battre pour que les travailleurs aient accès à ces dividendes qui font scandale à chaque fois qu'ils sont versés. Ou bien vous considérez que le capital n'est pas généreux, mais dans ce cas-là, il faut arrêter de taper sur les actionnaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas à la fois taper sur les actionnaires en disant ils se gavent et dire fonds de pension.
Bon, je suis en désaccord complet avec
vous. raison pour laquelle en réalité vous faites ça, c'est que quand on lit la tradition, quand on lit la littérature socialiste, quand on lit les textes de Marx, on se rend compte en réalité qu'il y a toute une frange de la gauche qui redoute l'embourgeoisement des travailleurs, qui ne veut pas que les travailleurs aient accès au capital, parce que dès lors que tout le monde est actionnaire de tout le monde, c'est beaucoup plus difficile de tenir un discours anticapitaliste. Dès lors que, en effet, les revenus des uns et des autres est indexé sur les performances des entreprises sur la bourse, dès lors que tout le monde effectivement est capitaliste à sa petite échelle, c'est beaucoup plus difficile de critiquer le capitalisme. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a toute une frange de la gauche qui ne cesse de taper sur les capitalistes tout en empêchant que les gens le deviennent. Il y a une forme de perversité que moi je ne
m'explique pas. Monsieur, vous mettez dans ma tête des choses qui sont...
Ensuite, sur la notion du loto, enfin je suis désolé, on est quand même en France le pays de Thomas Piketty qui a acquis la célébrité mondiale en nous expliquant que là encore le capital bénéficie d'un rendement outrancier. Le titre nous explique que sur deux siècles on a un rendement du capital qui oscille entre 3 et 6% par an et c'est pas un jeu à somme nulle. Donc il n'y a aucune raison valable de s'opposer à la capitalisation dans ces conditions-là, sauf si on veut en effet que les prolétaires restent pauvres et n'aient pas accès au patrimoine. Vous pouvez pas à la fois me dire qu'on a du mal aujourd'hui à accéder au patrimoine et refuser les fonds de pension qui est un moyen de favoriser l'accumulation patrimoniale chez les travailleurs. Tout ça c'est contradictoire, je suis désolé.
Olivier, vous voulez dire un mot au milieu là?
Non, je me suis d'accord avec tout ça.
Qu'on me fasse pas des qu'on ne me colle pas des étiquettes que je n'ai pas. Je n'ai absolument pas ces intentions-là en tête, que ce soit clair.
Oui.
Je réfute l'accusation d'appartenir à la gauche radicale.
D'accord.
Voilà. Donc, moi, mon souci, c'est que le système des fonds de pension fait que quand, déjà, on donne un pouvoir excessif aux agents de notation qui peuvent noter des choses qui sont très mauvaises, on en a l'expérience, on leur a donné un pouvoir excessif à ces agences, elles le savent. Donc, et puis, par ailleurs, on crée des fonds énormes qui vont influencer la politique du pays. On se prive donc d'une manière d'influencer de choix politiques qui devraient être de l'ordre de la démocratie. Et par ailleurs, je suis désolé, moi j'ai pas peur que les gens s'embourgeoisent. Au contraire, je ne demande qu'une chose, qu'on augmente les salaires pour que les gens qui sont en bas de l'échelle sociale puissent monter. Donc, ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dites ou que je ne pense pas.
Vous n'êtes pas d'accord. Alors, je dois reconnaître à Danny Lang qu'ils sont bien des sujets. Il n'a pas du tout des positions traditionnelles qu'on entend de la part des professeurs d'université plutôt à gauche. Voilà. Il a quand même des avis nettement plus mesurés.
Il y a quelques hérétiques qu'on entend.
Oh, c'est une blague. Nicolas m'écrit, j'ai 77 ans et pour moi Fergan a tout à fait raison. Voilà.
Ah.
Et d'autres réactions, 100% d'accord avec Fergan. Il y en a d'autres qui sont pas du tout d'accord avec vous. Il y a Robert m'écrit, taxer l'héritage revient à taxer des biens qui proviennent de revenus qui ont déjà été taxés. Imaginez que la croissance de l'économie c'est la croissance des dépenses publiques, c'est soviétique, m'écrit Robert.
Donc, alors on a vécu en URSS dans tous les pays du bloc capitaliste.
Certains ont tendance à dire avec ironie que le modèle économique de la France est un modèle soviétique qui a réussi.
Qui s'effondre moins vite, c'est exactement.
Ouais.
C'est plutôt ça ce qu'on dit.
Si la prospérité d'une nation était fonction de ses dépenses publiques, ça se saurait un petit peu quand même.
Mais
oui,
à mon avis. On serait le plus riche du monde depuis très longtemps.
J'entends ce que vous dites sur les patrimoines et sur les successions. Ce sont des discours que j'entends aussi de la part d'autres économistes qui ne sont pas du tout de la même famille de pensée que la vôtre.
Oui, je sais.
On est à 45% en France en ligne directe et 60% en ligne indirecte.
Non, mais arrêtez.
Ça, c'est l'impôt sur le revenu, là, que vous citez.
Non, les successions.
Non, je ne sais pas.
On a 45% en ligne directe, mais c'est comme je vous le dis.
Arrêtez.
Évidemment.
On a un niveau de taxation.
Quand mon père est décédé, j'ai hérité d'un bien.
Non, mais à partir d'un certain niveau.
200 000 euros, j'ai payé zéro impôt.
Ça dépend du
scandaleux. Il y a une décote par enfant. Mais
ça dépend du montant.
Donc les grosses successions, c'est 45%.
Ça dépend du montant de patrimoine, mais effectivement, le taux marginal de la taxation lors des successions est considéré en France comme l'un des plus élevés du monde.
Je suis désolé, il n'est pas assez progressif.
Bon, il n'est pas assez progressif. Et moi, Fergan
qui se réclame du libéralisme, il y a beaucoup de fondateurs du libéralisme,
c'est
Adam
faux.
Smith, qui était pour la confiscation complète de l'héritage.
C'est pas vrai ça.
Mais vous prenez Frédéric Bastiat qui était pour le travail des enfants.
C'est un sujet chez les libéraux.
Frédéric Bastiat n'a jamais été pour
le travail des enfants et contre la taxe.
Le problème c'est pas taxer l'héritage. Le problème c'est que nous on a choisi de taxer à tous les moments. C'est-à-dire que souvent on donne des exemples en disant ah oui mais un tel à un moment ils ont eu un très haut impôt sur le revenu. D'autres disent ah oui mais là ils ont eu très haut impôt sur l'héritage. En général, ils ont fait un choix à un moment. Nous, le problème, c'est qu'on le taxe au moment où on le gagne, on le taxe au moment où on le garde, au moment où on le transmet et au moment où on consomme. À tous les niveaux, on taxe. C'est ça le problème, c'est qu'il faut regarder quand même la somme, même si elles sont essaimées au cours de notre vie et de notre mort. Même.
Un mot sur l'héritage.
Oui, mais très rapide, là.
Piketty, dans son livre Le Capital au XXIe siècle, il dit que l'altruisme intergénérationnel et les motifs de perpétuation familiale du capital, c'est l'un des moteurs principaux de l'accumulation. Lui-même le reconnaît. C'est-à-dire qu'on a longtemps cru, avec la théorie du cycle de vie issue de Franco Modigliani, que les gens épargnaient essentiellement pour eux et pour leur retraite. On sait aujourd'hui que c'est pas le cas, que la transmission, c'est un des moteurs de l'accumulation patrimoniale. Et donc, si vous dissuadez les transmissions, vous dissuadez l'industrie et l'épargne. Voilà. Et donc, vous pesez aussi, vous sabotez la croissance.
Moi, j'ai toujours en tête un rapport de France Stratégie que j'avais trouvé assez éclairé sur une nouvelle manière.
On pourra le commenter une autre fois si vous voulez, mais il y a pas mal de billets qui étaient assez discutable. Quand on se plaint du retour de l'héritage après 60 ans de paix et qu'on ne comprend pas que la fin de l'héritage était le fruit de des deux guerres mondiales, il y a déjà un biais. C'est-à-dire que oui, quand les générations ne détruisent pas leur patrimoine sans cesse, il est normal que le stock de patrimoine accumulé augmente. Ça s'appelle le temps qui s'écoule.